Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. La presse et U2M Nouvelles. Au programme, comment devenir millionnaire grâce à Communauto. Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis et une importante subvention pour changer le visage de l'intelligence artificielle. Bonne écoute.
Comment devenir millionnaire grâce à Communauto? Un texte de Nicolas Bérubé paru le 7 mai 2023 dans la presse. J'évite de parler de mes propres finances dans cette rubrique, pour des raisons évidentes, risque d'enlèvement, demande en mariage, etc. Mais je fais une exception pour dire que 96 000 $ de l'argent qui se trouve dans mon compte CELI est attribuable à une entreprise, Communauto. Cette somme peut paraître élevée, mais elle est en fait minuscule. Ma famille pourrait avoir accumulé 1 000 000 $ rien qu'avec Communauto d'ici 20 ans. Avant de vous expliquer comment c'est possible, une précision. Cette rubrique risque de passer au-dessus de la tête de bien du monde. Si vous n'habitez pas à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke ou dans l'une des 9 villes en Ontario où le service est offert, vous n'avez pas accès à Communauto. Par ailleurs, si vous y habitez mais travaillez loin de la maison, devez conduire plusieurs enfants à plusieurs écoles ou entraînements sportifs chaque jour, vous avez sans doute besoin d'une auto à vous seul. Je ne suis pas un intégriste de l'autopartage. Chacun mène sa vie comme il l'entend, mais ce système m'a enrichi et je pense que des dizaines de milliers d'autres personnes pourraient en bénéficier. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à mon chiffre de 96 000 $ et à celui de 1 million? Il y a une décennie, quand la chanson « Get Lucky » de Daft Punk venait d'être lancée, que Pauline Marois était première ministre du Québec et que la province se remettait des grèves étudiantes des Carrés Rouges, nous sommes revenus de Los Angeles avec un nouveau-né pour nous établir à Montréal. Par réflexe, nous nous sommes dit que la vie sans posséder de véhicule était impossible. Prendre le métro pour aller travailler est une chose, mais comment se rendre à un rendez-vous médical sans voiture? Aux activités, aux fêtes d'amis, chez les grands-parents à l'extérieur de la ville. Nous avons fait comme beaucoup de nouveaux parents et avons acheté une voiture. Or, au fil des mois, nous avons réalisé que 1. Nous avons 2 jambes, 2. Nous avons des vélos, 3. Les nouveau-nés et les enfants sont admis dans les autobus et le métro. C'est fou, je sais. 4. Uber existe. Notre voiture pouvait passer des jours immobiles dans la rue devant la maison à ne rien faire. Ce n'est pas unique. L'automobile moyenne est inutilisée 95% du temps. Nous avons finalement décidé de la vendre et de nous abonner à Communauto. Comment c'est Communauto? C'est comme la possession d'une voiture. Ça a ses bons et ses mauvais côtés. Côté négatif, l'entreprise est victime de son succès et il est parfois difficile de trouver une voiture la fin de semaine. L'intérieur des voitures n'est pas toujours super propre. Gobelets de café vides, miettes de muffins, etc. Et c'est parfois long de joindre un représentant du service à la clientèle au téléphone. En bientôt 10 ans, jamais je n'ai dû annuler un déplacement par manque de voiture. Mais j'ai dû ramer parfois. Faire un jogging de 3 km pour aller récupérer une voiture dans un quartier voisin. Prendre un bixi pour me rendre à la voiture la plus proche font partie de mes faits de guerre. Vous écoutez « Comment devenir millionnaire grâce à Communauto » un texte de Nicolas Bérubé paru le 7 mai 2023 dans la presse. Et puis, je ne vais pas le nier, rouler en Kia ou en Toyota grise avec un gros logo vert sur la portière est pas mal moins cool que de rouler en Jeep ou en Tesla. Je n'y accorde pas d'importance, mais je réalise que ce n'est pas au goût de tout le monde. Côté bénéfice, totale tranquillité d'esprit en ce qui concerne les coûts. L'essence et l'assurance sont incluses dans le prix. Pas besoin de gérer l'entretien, les changements de pneus ou encore le déneigement et le pelletage pour changer de bord de rue l'hiver. Et on paye à l'utilisation. Zéro utilisation, zéro facture. J'ai aussi remarqué que ne pas posséder de voiture nous évite de l'utiliser par paresse. Par exemple, pour aller au parc un peu loin, alors qu'il est accessible à pied, à vélo ou en autobus. Communauto estime que l'autopartage entraîne une réduction d'environ 30 à 40 % des kilomètres parcourus. Donc, il y a cet effet coup de pied au derrière qui nous force à être plus actifs que nous ne le serions si nous avions une voiture à notre disposition 24 heures sur 24. Effet qui nous pousse aussi à organiser du covoiturage à tour de rôle avec d'autres parents pour les rencontres sportives. Moins de déplacements en auto veut dire moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de bruit et de poussière, moins de danger pour les citoyens dans les rues, et aussi moins de dépenses pour l'ensemble des contribuables, qui subventionnent l'entretien des routes et le déneigement des voies publiques réservées par la ville aux propriétaires d'automobiles pour entreposer leurs véhicules quand ils n'en ont pas besoin. Bref, tout le monde est gagnant. Sans compter, bien sûr, les gains financiers. Le ménage montréalais typique qui possède une voiture, 30 % n'en possède pas, un taux qui dépasse 50 % dans les quartiers centraux, a dépensé 9 500 $ en transport automobile privé en moyenne par année au cours des 6 dernières années, selon la Ville de Montréal, somme qui inclut la dépréciation, le fonctionnement et l'entretien. De notre côté, ça a tourné autour de 3 000 $ en moyenne, y compris une location d'un mois durant l'été. En laissant un jeu prudent de 1 000 $ par année pour les Uber, taxis et autres, je prends la différence de 5 500 $ et je l'investis annuellement dans mon compte d'épargne libre d'impôt, CELI. J'ai placé cet argent selon la formule 50-50 dans des fonds négociés en bourse, FNB, qui suivent les marchés canadiens et américains. Les fonds que j'ai achetés sont les fonds Vanguard FNB Indiciel FTSE Canada toute capitalisation VCN et Vanguard FNB Indiciel SCP 500 VFV. Les frais de gestion annuels totaux de ces fonds sont de 0,05 % et de 0,09 % respectivement. De 2013 à 2023, ce portefeuille a connu une croissance moyenne de 10 % par année. La chute la plus importante a été de 32 % au début de 2020, chute malheureusement résorbée en août de la même année. J'aurais aimé que les soldes durent plus longtemps, mais ça ne s'est pas produit. Donc, nos 5 500 $ épargnés et investis chaque année grâce à l'autopartage sont aujourd'hui devenus 96 000 $. Vu autrement, ce service nous a permis d'accumuler l'équivalent du prix d'achat de 2 Tesla Model 3 en 10 ans. Et si notre épargne et nos rendements devaient se poursuivre? Aucunement assuré, mais la bourse a connu des rendements annuels moyens d'environ 10 % depuis plusieurs générations déjà, nous en serions à près de 350 000 $ dans le CELI dans une décennie, l'équivalent de 8 Tesla Model 3. Dans 20 ans, 1 million de dollars attribuables à nos économies en transport pourraient se multiplier à l'abri de l'impôt dans notre compte d'investissement. Millionnaire, rien qu'avec Communauto. Comprenez-vous pourquoi le logo vert sur la portière ne me dérange pas vraiment? C'était « Comment devenir millionnaire grâce à Communauto », un texte de Nicolas Bérubé paru le 7 mai 2023 dans la presse.
Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis. Un texte de Jonathan Brown, paru le 8 mai 2023 dans la presse. Kiev. La même que pour les nazis, le président ukrainien a promis la défaite à la Russie lundi, jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à la veille de célébrations en grande pompe et sous haute sécurité à Moscou. Les pays occidentaux marquent l'anniversaire de la capitulation allemande le 8 mai, mais Moscou a toujours retenu la date du 9 en raison d'une différence de fuseau horaire. Le président Vladimir Poutine a fait de la défaite des nazis un élément essentiel de l'identité et du nationalisme russe, minimisant le rôle des autres alliés. Et il n'a cessé aussi de placer son invasion de l'Ukraine dans cet héritage, affirmant que son voisin devait être dénazifié. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis au régime poutinien le même destin que celui d'Adolf Hitler. Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu, a insisté M. Zelensky dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux peu après une nouvelle attaque nocturne russe, au cours de laquelle plus de 30 drones explosifs ont été abattus au-dessus de Kiev et 2 civils tués dans les régions d'Odessa et Zaporijjia, sud. Il a annoncé dans la foulée que l'Ukraine marquera désormais la fin de la Seconde Guerre mondiale à la manière occidentale le 8 mai et célébrera le 9 la Journée de l'Europe, comme les pays de l'Union européenne que Kiev aspire à rejoindre au plus vite. Au lendemain de cette annonce, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Kiev pour réaffirmer le soutien sans faille de l'Union européenne à l'Ukraine, a annoncé son porte-parole. Crainte de Moscou. La Russie prépare de son côté ses commémorations avec, mardi le 9 mai, le traditionnel défilé militaire à l'ombre du Kremlin et un discours de M. Poutine devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge. Mais après 15 mois de revers sur les champs de bataille, les célébrations en Russie n'auront pas le lustre des années précédentes. Un peu partout dans le pays, des défilés et manifestations ont été annulés, les autorités avançant un risque terroriste trop élevé. D'autant que les attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou se sont multipliées ces dernières semaines et qu'une vaste contre-offensive ukrainienne semble de plus en plus imminente, voire est peut-être déjà en cours. La plus spectaculaire, même si elle fait l'objet encore de beaucoup de questions, a été une attaque au drone contre le Kremlin la semaine dernière. Il y a eu également des frappes contre des installations énergétiques russes, des sabotages de voies de chemin de fer et de multiples tentatives d'assassinat ou assassinat de personnalités, comme celle qui a blessé samedi l'écrivain nationaliste Zakhar Prilépine. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a donc justifié l'annulation d'une partie des célébrations du 8 mai. Quand on a affaire avec un État commanditaire du terrorisme, de fait, il est mieux de prendre des mesures préventives. La Russie a en outre lancé des dizaines de drones explosifs contre son voisin. Dans l'ensemble, les dégâts sont limités. Les quelques 35 appareils ayant visé Kiev ayant été abattus, selon l'administration militaire de la ville. 5 personnes ont cependant été blessées et des immeubles endommagés par des débris. Campagne russe enlisée. Un appartement a notamment été dévasté, ont constaté des journalistes de l'AFP. On a eu très peur, car on entendait les drones pour la première fois. Ils volaient très bas. C'était vraiment très effrayant, a commenté un habitant du quartier, Vladislav. La région d'Odessa a également été visée. Les autorités locales faisant état de la destruction par un missile d'un entrepôt alimentaire et de son gardien tué. Côté russe, l'administration de la péninsule annexée de Crimée a affirmé avoir repoussé une attaque nocturne de drones ukrainiens contre Sébastopol, port d'attache de la flotte russe en mer Noire. Dans l'ensemble, la campagne militaire russe est enlisée depuis des mois. L'armée s'étant montrée dans l'incapacité de faire des gains territoriaux lors de son offensive de l'hiver. Bakhmout, ville forteresse de l'Est, en proie au combat depuis bientôt un an, est le dernier symbole en date de la résistance acharnée des Ukrainiens. Cette bataille a aussi exposé les conflits au sein du camp russe, avec le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, insultant dans une récente vidéo la haute hiérarchie militaire, la menaçant même de jeter l'éponge avant de se rétracter après avoir obtenu la promesse de plus de munitions. Pour autant, la contre-offensive ukrainienne, même si elle est dopée par les approvisionnements en armes occidentales, s'annonce longue et sanglante, les Russes ayant passé l'hiver à consolider leurs positions et creuser des tranchées dans le sud comme dans l'est. C'était « Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis », un texte de Jonathan Brown, paru le 8 mai 2023 dans la presse. Une importante subvention pour changer le visage de l'IA, un texte de Béatrice Saint-Cyr Leroux, paru le 28 avril 2023, dans UdeM Nouvelles. L'université vient de recevoir plus de 124 millions de dollars du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada pour financer un changement de paradigme en intelligence artificielle. L'Université de Montréal s'apprête à révolutionner la recherche en intelligence artificielle, IA, grâce à une subvention du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada. Une valeur de 124,5 millions de dollars, ce financement permettra de lancer IAR3, un important projet qui promet de bâtir l'avenir avec une IA robuste, raisonnante et responsable, les trois R. L'objectif, mieux répondre aux besoins des collectivités par une réduction de l'écart entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine en tablant sur des équipes de recherche interdisciplinaires. Cette initiative d'envergure est portée par l'UdeM en partenariat avec Polytechnique Montréal, HEC Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill, toutes unies sous la bannière d'IVADO, un consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle. Notons d'ailleurs qu'une première subvention du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada a permis sa création. La première subvention Apogée a accéléré le développement technologique d'approches automatisées d'aide à la décision. La seconde permettra de franchir une nouvelle frontière en vue de l'application d'algorithmes robustes qui sont réfléchis et construits de manière responsable et éthique, souligne Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal. La prévention des dérives potentielles de l'IA, attribuables au biais, par exemple, et la mise en place d'un cadre rigoureux pour l'élaboration des algorithmes sont ainsi au cœur du projet IAR3. C'est pourquoi l'une des premières étapes du projet consiste à mettre au point des systèmes d'IA plus modulaires, évolués et explicables, tout en intégrant dès leur design les enjeux humains, précise Luc Vinet, directeur général d'Ivado. Réfléchir à plusieurs pour accélérer les découvertes. Marie-Josée Hébert et Luc Vinet insistent sur l'importance de l'interdisciplinarité et la mise en commun d'expertises diversifiées pour asseoir cette nouvelle orientation qui englobe sciences humaines et sociales, sciences de la santé, sciences naturelles et génie. Et l'Université de Montréal et Ivado sont justement les terreaux fertiles nécessaires à la synergie des connaissances avec leur présence dans toutes les sphères du savoir. Dans le projet IAR3, cette diversité conduira à la création de plusieurs regroupements de recherche, notamment l'IA et les neurosciences, l'apprentissage automatique, l'environnement, le traitement du langage naturel, les molécules, la santé, l'EDI, équité, diversité, inclusion, et les chaînes d'approvisionnement. Ces groupes chercheront à découvrir de nouveaux matériaux et médicaments, à accroître la résilience face aux crises climatiques, à assurer l'émergence de systèmes de santé apprenants et à répondre aux enjeux des chaînes d'approvisionnement. Le plan est ensuite de faire en sorte que toutes ces avancées scientifiques et technologiques bénéficient à la société. Ainsi, la main-d'œuvre des quelque 150 partenaires mobilisés par le projet IAR3, industrie, gouvernement, centres de recherche, etc., sera formée et entraînée pour encourager une adoption responsable de l'IA. Prendre ses responsabilités. Dans le contexte médiatique actuel, où plusieurs experts locaux et mondiaux demandent instamment un développement responsable de l'intelligence artificielle, le projet IAR3 vise dans le mille, car il cible les principaux enjeux de cette science de rupture, croit Luc Vinet. Selon Marie-Josée Hébert, cette vision éthique de l'IA fait partie depuis longtemps des valeurs de l'Université de Montréal et il s'agirait d'un devoir d'agir en conséquence. Parce que nous avons un positionnement et une expertise de recherche unique, la capacité de nous rencontrer à travers des disciplines différentes et parce que le développement de l'IA est né en partie dans notre département d'informatique et de recherche opérationnelle, nous avons une responsabilité institutionnelle et collective de nous engager dans un développement de l'IA qui en atténue les risques et en maximise les avantages au profit de tous, conclut la vice-rectrice. Histoire à succès d'Ivado. Ivado est jeune, mais a déjà plusieurs réalisations à son actif. Grâce aux forces combinées de ses 225 professeurs et professeurs issus de 22 universités canadiennes, plus de 575 projets ont vu le jour depuis 2017. Mis sur pied en collaboration avec l'industrie, ils ont une valeur de plus de 77 millions de dollars. Un exemple à succès est le partenariat d'Ivado avec Brainbox AI pour créer des bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces sur le plan énergétique. L'objectif était de mettre au point une technologie d'IA qui diminue l'empreinte carbone des bâtiments au moyen d'une gestion intelligente de leur système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les innovations apportées par Brainbox AI, avec l'aide d'Ivado, contribuent directement à la transition énergétique d'entreprises québécoises en réduisant jusqu'à 40 % l'empreinte carbone de leurs bâtiments, ainsi que les coûts totaux d'énergie de leur système de chauffage, de ventilation et de climatisation, jusqu'à 25 %. Dans le domaine de la santé, Ivado a notamment donné un coup de pouce à GreyOS. Cette plateforme vise à optimiser la prise de rendez-vous des traitements de radiothérapie en centre de cancérologie. Ivado a aidé la jeune pousse à concrétiser sa plateforme et l'épaule maintenant dans son perfectionnement. La plateforme est actuellement à l'essai au Centre intégré de cancérologie du CHUM. C'était une importante subvention pour changer le visage de l'IA, un texte de Béatrice Saint-Cyr Leroux, paru le 28 avril 2023 dans l'UdeM Nouvelle.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, Daniel Veillette et Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.